Alors bonjour Harel à la technique et bonjour Isaac.
Bonjour Richard, bonjour Harel et bonjour à tous.
Bon alors Isaac, j'imagine que nous allons consacrer une bonne partie de l'émission de cette semaine aux événements de ce week-end et à l'attaque iranienne. Alors, pour celui qui veut prédire ce qui va probablement se produire au Moyen-Orient, je ne peux que lui conseiller d'écouter les discours de Joe Biden qui précèdent les événements qu'on essaie de prédire. On sait que Joe Biden a beaucoup de mal à faire des discours sans l'aide du téléprompteur. Mais lorsqu'il s'aventure à essayer d'improviser un discours, ils sont d'habitude extrêmement courts. Et son discours le plus court, mais qu'il semble apprécier tout particulièrement, c'est le fameux « don't ». Hein, il nous l'avait déjà sorti lorsque, à la suite du 7 octobre, il avait menacé les Iraniens déjà à l'époque de graves représailles si jamais ils s'en prenaient aux intérêts américains. Le don't de l'époque n'avait pas eu
un grand succès.
Un très grand succès côté iranien, puisque je pense qu'ils ont depuis lors commis plus de 130 ou 140 attaques contre les bases américaines, que ce soit en Syrie, en Irak. Je pense qu'il y a eu 3 militaires américains qui ont été tués, de nombreux blessés. Donc ce don't-là n'a pas eu un impact particulièrement percutant. Eh bien, il a resservi le don't la semaine dernière, hein, il a plissé des yeux, il a murmuré pour avoir l'air plus sérieux et dangereux et menaçant, et il a de nouveau menacé l'Iran de ne pas attaquer l'État d'Israël. Et donc patatras, évidemment Isaac, le surlendemain je pense de ce discours, on a vu ce qu'on a vu.
Oui, l'opération iranienne, l'agression iranienne de la nuit de samedi à dimanche. 361, je pense, objets volants bien identifiés, puisqu'il s'agissait à la fois de drones, de missiles de croisière et surtout de missiles balistiques. Alors, ce qu'on note, c'est que tout le monde était prévenu. Tout le monde savait ce qui allait arriver, parce que les renseignements israéliens comme les renseignements américains convergeaient pour dire que dans les 24 à 48 heures, l'agression iranienne se produirait. Ce qui veut dire que l'appareil sécuritaire israélien était en place. On avait dressé la table. On savait parfaitement à quoi s'en tenir. Et ponctuellement, cette intervention est arrivée avec d'abord des drones qui voyagent à la vitesse d'à peu près 200 km par heure, donc très lentement. Ensuite, avec des missiles de croisière qui, eux, ont une trajectoire plus rapide, une vitesse plus rapide, puisque c'est de l'ordre de 1000 km. Et puis, les balistiques qui ont entre 8000 et 9000 km. Et donc, il faut saluer. Il faut souligner l'ingéniosité des ingénieurs iraniens qui sont tous sauf stupides, puisque tous ces armements, qui sont de vitesses différentes, sont arrivés à un même moment. Donc on a eu 3 vagues d'aéronefs qui voyagent à une vitesse différente, à des altitudes différentes, arrivées exactement au même moment dans le ciel ou à proximité du ciel.
D'origine différente aussi.
Et d'origine différente, puisque ça venait aussi bien du Yémen que de l'Iran. Et donc tout ça est arrivé en même temps, au moment où la défense antiaérienne israélienne, dûment prévenue, dûment avisée, informée par ses services de renseignement comme par les services de renseignement américains, était là pour les recevoir. Bien, et ça a été une hécatombe pour l'agresseur, puisque selon les autorités sécuritaires israéliennes, 99% de ces objets volants ont été détruits, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, en dehors de l'espace aérien israélien, sur la Jordanie, sur l'Irak. Et ce qu'on a vu apparaître, c'est une alliance objective entre les Israéliens et les Américains. Bon, ça n'a strictement rien de surprenant, puisque Joe Biden et l'administration américaine avaient assuré Israël qu'ils les soutiendraient dans la défense de leur territoire. Mais plus surprenant, c'était l'intervention de deux puissances européennes qui n'avaient pas manqué d'être extrêmement critiques à l'égard d'Israël dans la campagne militaire à Gaza. Je pense à la Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, à la France qui est infiniment plus discrète quant à la nature de sa véritable intervention. Mais surtout, surtout, dirons-nous, c'est la Jordanie qui a contribué à abattre un grand nombre de drones sur son territoire, ce qui veut dire que la Jordanie a choisi son camp. La Jordanie est menacée de vassalisation par l'Iran, et donc elle a choisi son camp, c'est le camp occidental. Et plus encore, plus surprenant encore, puisqu'il n'y a pas d'accord de paix, il n'y a pas encore de processus de normalisation formellement en place, c'est la déclaration aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, une heure à peu près, de Mohammed bin Salman, le prince régent d'Arabie Saoudite, qui dit que effectivement l'armée saoudienne est également intervenue pour empêcher eh bien le survol de son territoire par ces fameuses aéronefs. Et donc on a vu naître une architecture d'alliance entre les États-Unis, Israël, deux pays arabes, un pays qui a déjà des relations officiellement avec Israël, un autre pays dont on disait que l'attaque du 7 octobre allait questionner la normalisation avec l'État d'Israël. On a vu que, en réalité, ça n'était que mis au réfrigérateur pour quelque temps, parce que l'intérêt des Saoudiens, comme l'intérêt des Israéliens, c'est de faire face à une menace qui pèse sur eux de façon égale, c'est l'Arabie Saoudite et c'est Israël. Bien. Alors, sur un plan technologique, évidemment, c'est un succès phénoménal de l'industrie et de l'ingéniosité israélienne, puisque cette défense s'est faite à trois niveaux. C'est-à-dire que la défense du ciel israélien s'est faite par les trois échelons de la défense du ciel israélien. C'est le dôme de fer, puis c'est le sling, la fronde de David, et puis la flèche, le ketz. Et donc, ces trois niveaux de défense du ciel israélien ont agi en même temps pour frapper le premier, les drones, le second, les missiles de croisière, et le troisième, les missiles balistiques. Bien, c'est un succès phénoménal, c'est un échec cinglant, en tout cas sur le plan technologique, pour les Iraniens, mais il faudrait revoir ça dans une configuration différente que celle-là. J'observe que, d'abord, il n'y avait pas d'effet de surprise. Or, on sait que dans une agression, l'effet de surprise, c'est quand même un paramètre extrêmement important. Tout le monde a été prévenu. Tout le monde, l'agresseur, savait. Il avait prévenu les États-Unis qu'il allait agir. Les services de renseignement, évidemment, le savaient, parce qu'il y a eu des fuites qui ont été savamment organisées par les Iraniens pour que tout se sache. C'est que, donc, l'effet de surprise, il n'y avait pas. Et deuxièmement, le Hezbollah a été peu ou pas engagé dans cette agression. On peut imaginer, eh bien, cette même agression faite par surprise et avec le concours du Hezbollah qui ne se trouve pas à des centaines de kilomètres, 1500 kilomètres des frontières occidentales de l'Iran, mais à quelques dizaines de mètres seulement de la frontière septentrionale d'Israël. Comment les services de sécurité israéliens préviendraient une menace qui serait autrement plus difficile à contrecarrer? Donc, c'est bien, mais c'est à revoir. Donc, pousser des cris de victoire, ça me paraît assez prématuré parce que ça fait l'Iran. Ici, c'est poser un nouveau paradigme. Et d'ailleurs, l'Iran a prévenu, à la fois les Américains et les Israéliens, s'il y a représailles israéliennes, ou que ce soit sur le territoire iranien ou contre les intérêts iraniens, n'importe où ailleurs dans le monde, et on pense en particulier au Liban, à la Syrie et à l'Irak, où les Israéliens interviennent pratiquement quotidiennement dans ce qu'on appelait jusque à la nuit de samedi à dimanche la guerre entre les guerres, et qui n'est plus une guerre entre les guerres, mais qui est désormais une guerre ouverte. Eh bien, ça veut dire que lorsque les Israéliens interviendront pour prévenir un convoi d'armes de ravitaillement pour le Hezbollah venant d'Iran, ou bien aux milices pro-iraniennes en Irak, et que les Israéliens interviennent pour les détruire, eh bien l'Iran, avec ce nouveau paradigme, se sentirait en droit, d'attaquer Israël à partir de son territoire. Ce qui veut dire qu'il y a un nouveau paradigme là. Est-ce que les Israéliens vont accepter de vivre avec ce paradigme qui leur est désormais imposé par l'Iran? C'est à voir. Ce que je note, c'est que les réactions sont pratiquement unanimes. En ce compris même la Russie et la Chine, qui sont extrêmement, je dirais, discrets. Mais pour tout ce qui est des nations fréquentables, eh bien, on a été d'une même condamnation ferme à l'égard de l'Iran. Je note néanmoins dans ces condamnations un grand bémol. C'est retenu, restraint. Il faut se retenir. Donc il y a un pays qui a été agressé, qu'il a été prévenu ou pas prévenu, ne change rien à l'affaire. Il a été agressé. Au motif que les Iraniens ont riposté à l'attaque israélienne du 1er avril contre ce qu'ils appellent le consulat d'Iran à Damas, où ils avaient éliminé Zaidi, le général Zaidi, qui est le plus gros poisson iranien après Qassem Soleimani, ainsi que 6 autres hauts responsables iraniens chargés de mettre sur pied l'agression iranienne contre Israël à partir des sols libanais et syriens. Bien. Je rappelle quand même quelque chose qui n'est pas suffisamment rappelé sur les plateaux de télévision où abonde le meilleur et le plus mauvais des invités, c'est qu'il n'y a pas eu d'agression contre le consulat iranien à Damas. Nous l'avons dit d'ailleurs la semaine dernière, il s'agit d'un bâtiment annexe qui n'est ni le consulat ni l'ambassade, où se réunissait eh bien une réunion, un meeting militaire avec des très hauts gradés des corps des gardiens de la Révolution, ce qui le destiné à être une cible parfaitement légitime. J'ajoute, enfin, que l'Iran est mal placé pour parler d'agression et de violation du droit international parce que les Israéliens auraient frappé un bâtiment d'une légation internationale. L'Argentine vient de désigner l'Iran comme responsable des attentats commis par le Hezbollah pour le compte de l'Iran en 92 contre l'ambassade israélienne à Buenos Aires, ce qui avait fait 29 morts, et puis 2 ans plus tard, contre l'agence mutuelle israélo-argentine, l'AMIA, le centre communautaire, en 94, qui avait fait 85 morts.
Ouais. Alors, il ne faut pas remonter si loin, Isaac, hein, parce que le général qui a été abattu par les Israéliens le 1er avril,
oui,
dans cette annexe du consulat, le général Zahedi, il semblerait, d'après en tout cas la nécrologie faite par les gardiens de la Révolution eux-mêmes, hein, lorsque ce général a été enterré, enfin ce qu'il en restait, a été enterré, cette nécrologie faisait état de la responsabilité ou du rôle
du 7 octobre, dans le 7 octobre.
Du 7 octobre, oui, qu'a joué ce général dans la planification du 7 octobre. Donc ce sont les Iraniens eux-mêmes qui, dans la nécrologie de ce général, ont vanté ses mérites et le rôle essentiel qu'il a joué dans l'organisation, la planification du 7 octobre. C'est Memri, hein, cette
oui,
organisation américaine qui surveille justement les médias musulmans, qui a fait état de ce discours des gardiens de la Révolution. Donc voilà, une cible totalement légitime, hein, parce qu'il ne faut pas remonter à 92 en Argentine pour trouver les méfaits iraniens. Hein, il suffit de remonter au 7 octobre, enfin on le savait déjà, mais enfin là c'est les Iraniens eux-mêmes, hein, qui ont fait cette déclaration et qui ont donc clairement vanté les mérites de ce personnage dans le programme du 7 octobre. Donc il me semble qu'il était une cible totalement adéquate pour l'armée israélienne.
Elle aurait été, cette cible, ouais, tout à fait légitime, même si ça n'était pas dans un bâtiment annexe, ouais, même si cette réunion de haut gradé s'était tenue dans le consulat. Eh bien, je rappelle ce que nous disions déjà encore la semaine dernière. Il y a la Convention de Vienne qui règle le monde de la diplomatie et qui dit très clairement que les bâtiments, les légations internationales doivent servir à l'activité diplomatique et politique et pas militaire. Donc, il est évident que ça désignait ce bâtiment comme une cible parfaitement, parfaitement légitime. C'est un autre enseignement, et c'est toujours le même, c'est la capacité des Israéliens à mettre leur population à l'abri les prive, semble-t-il, du droit à répliquer, à des représailles. C'est-à-dire que, à entendre les réactions des différentes chancelleries dans le monde, c'est, à commencer par l'américaine, par la bouche de Joe Biden, c'est-à-dire, vous n'avez pas de dégâts, vous avez prévenu l'agression iranienne, vous avez abattu...
On vous a aidé,
et 99% des aéronefs qui ont été abattus, prenez votre victoire et restons-en là, tirons la ligne. En revanche, cela laisse entendre que s'il y avait eu des dégâts humains ou matériels, là, on aurait pu concevoir moins difficilement que Israël organise des représailles contre l'Iran. Ça veut dire que la capacité d'Israël à mettre sa population à l'abri, et ça vaut pour Gaza comme pour l'Iran, ça veut dire puisque vous êtes capable de défendre votre ciel ou votre territoire, eh bien, vous ne pouvez pas porter le fer à l'extérieur de vos frontières. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde parce que vous ne pouvez pas mesurer une agression à l'aune des dégâts que cette agression a provoqués chez vous. Vous ne pouvez la mesurer qu'à l'aune de l'intentionnalité. Qu'il y ait eu mort ou pas mort, l'intentionnalité était de provoquer des morts. Et donc, ça donne toute légitimité à une représaille. Or, le monde entier s'organise aujourd'hui pour dire, oui, il faut assurer la défense d'Israël, la sécurité d'Israël est ironclad, comme on dit aux États-Unis, elle est inébranlable.
Mais pour faire un petit jeu de mots, moi je dirais Iran-clad.
Iran-clad, hein? C'est pas mal. Voilà. Bien trouvé, joli.
Ironclad, ça veut dire inébranlable.
Inébranlable, oui, c'est ça. La sécurité d'Israël est pour nous inébranlable, mais maintenant il faut de la retenue, il faut une désescalade parce que il y va de la stabilité de la région. Ah bon? Je m'interroge. La région est stable. La région est stable. Vous avez au moins 4 pays qui sont désormais inféodés à l'Iran, le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen. Il y a des visées iraniennes, je le disais en passant tout à l'heure, sur la Jordanie, de même que sur l'Azerbaïdjan. La région est stable. Je veux dire, elle est stable dans une énorme instabilité. Et qui provoque cette instabilité? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, à commencer par les Américains qui appellent à la retenue. Donc il faudrait laisser les choses en l'état. Et on se met à imaginer ce qu'il en serait de la volonté d'en découdre des Iraniens si en plus de cela, le pouvoir était un pouvoir nucléaire. Alors c'est déjà effrayant ce à quoi on a assisté parce que un exercice grandeur nature qui fera d'ailleurs vendre les systèmes sécuritaires israéliens de par le monde, un exercice grandeur nature comme ça, on ne l'avait jamais vu. À peu près 400 aéronefs qui attaquent Israël en même temps, c'est du jamais vu. C'est l'application pratique de la guerre des étoiles. Mais qu'est-ce qui se passerait si l'agresseur serait en plus une puissance nucléaire? Mais le monde entier dit à Israël, gardez l'arme au pied, prenez votre victoire, vous avez abattu tout le monde. De toutes les façons, nous nous sommes arrangés avec les Iraniens, nous ferons pression sur les Israéliens pour qu'ils ne réagissent pas. Alors la vraie question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce que font les Israéliens. Est-ce qu'ils raisonneront avec un schéma de pensée hérité du 6 octobre? C'est-à-dire, on mesure la nécessité d'une représaille à l'aune des dégâts humains et matériels, ou bien on le mesure à l'intentionnalité? Parce qu'au 6 octobre, nul doute que, en l'absence de dégâts matériels et humains, on ne réagit pas, on se contente de cette victoire, entre guillemets, de cette démonstration technologique, et on se dit, voilà, on a dissuadé les Iraniens pour quelque temps. Mais il y a eu le 7 octobre, et donc la question du 7 octobre impose aux responsables sécuritaires israéliens la question de savoir, bon, est-ce qu'il ne faut pas, plutôt que de mesurer la représaille à l'aune des dégâts, le mesurer à l'intentionnalité.
Alors, le risque nucléaire que vous venez de mentionner et cette demande de retenue me fait penser à un petit épisode d'histoire. Revenons 1945,
oui.
Juillet 45, je crois, la déclaration de Potsdam.
Oui.
En Allemagne, les Allemands avaient déjà rendu les armes au mois de mai. Là, on est 2 mois plus tard. Les Japonais, eux, continuent la guerre, continuent le combat. Les Américains, les Anglais et les Chinois, puisque les Chinois étaient engagés, évidemment, dans cette guerre contre les Japonais, font une déclaration commune à Potsdam, enjoignant les Japonais à une reddition immédiate, inconditionnelle, à ce que le pays soit occupé par les forces alliées.
Oui.
et à ce qu'un gouvernement désigné par ses forces alliées soit mis en place pour, évidemment, prendre le relais. Et il rajoute dans cette déclaration, si je me souviens bien, que faute d'une réponse positive des Japonais, ben, ce serait une destruction totale et immédiate également. Voilà le discours en 1945 des Américains. Hein, mm-hmm. Ils ont fait preuve d'une énorme retenue dans les mots et puis dans les gestes encore moins, puisque les Japonais ont bien évidemment pas répondu à cette demande. Ils ont continué de se battre et deux semaines plus tard, je crois que c'était le 15 août, Hiroshima et quelques jours plus tard, Nagasaki. Donc c'est pour ça que je pensais à cet épisode, parce qu'eux n'ont pas hésité à faire preuve d'une immense retenue, Isaac, à l'époque.
Oui, alors Joe Biden dira, c'est pour ça qu'on a fait l'ONU, pour éviter tous les excès qui se sont produits de notre fait, comme du fait des ennemis allemands comme japonais, pour que ça n'arrive plus, pour qu'il n'y ait plus un Dresde d'un côté et plus un Hiroshima de l'autre. Et l'ONU serait née de cela, la Cour internationale de justice serait née de cela, pour éviter les excès qu'on a observés dans toutes les guerres jusque-là. Même si j'observe que bien après la création de l'ONU en 1945, les interventions alliées ne se sont pas trop souciées lorsqu'ils frappaient leurs ennemis, qu'il s'agisse en Afghanistan ou en Irak ou en Libye.
Ou
au Vietnam. Effectivement. Donc Israël se trouve aujourd'hui placé devant une sérieuse question. C'est est-ce qu'il faut répondre ou est-ce qu'il ne faut pas répondre? Parce que des rumeurs laissent entendre que dans les heures qui ont suivi l'agression iranienne, il y avait déjà une escadrille de bombardiers israéliens qui était en route vers l'Iran. Puis il y a eu cette conversation entre Joe Biden et le Premier ministre israélien, au terme de laquelle, le Premier ministre israélien a demandé aux responsables militaires de rappeler cette escadrille. Ce qui veut dire que la décision avait été prise immédiatement pour organiser une représailles contre l'Iran. Et donc on a retenu, une fois encore, comme on l'a retenu et comme on continue de retenir d'ailleurs pour Rafah, on a retenu le bras d'Israël pour changer l'équation. Pour changer l'équation, parce que voilà une occasion peut-être unique qui a été offerte par l'agression iranienne, d'enfin réinventer la région et réinventer un véritable équilibre, débarrassé du pays qui instille ce déséquilibre, qui fabrique ce déséquilibre, qui l'entretient et qui, tel un coucou, s'installe dans des pays faillis pour se développer et organiser ce cercle de feu sur les frontières israéliennes. Alors, le gouvernement israélien est placé devant une décision extrêmement difficile parce qu'il ira à l'encontre de la volonté de la, entre guillemets, communauté internationale qui, d'un même mot, enjoigne Israël à ne pas réagir et appelle Israël à la retenue. Bien. Parce que, dit Joe Biden, on a construit une alliance objective avec l'Arabie Saoudite, avec la Jordanie, avec les pays européens, les États-Unis et Israël. Construisons là-dessus un processus diplomatique d'isolement de l'Iran et privilégions donc l'option diplomatique à l'option militaire. Et donc il y a ici une question centrale, une question je dirais presque existentielle, parce que la course à l'armement atomique par l'Iran n'a jamais cessé. D'ailleurs, elle s'est servie, l'Iran, de tous ces conflits périphériques pour continuer d'avancer derrière cet écran de fumée dans son programme nucléaire. Et donc il appartiendra aux décisionnaires israéliens de dire s'il faut aller à l'encontre de cet appel unanime à la retenue. Je rappelle que par le passé, c'est déjà arrivé. À la création de l'État d'Israël en 1948, le secrétaire d'État aux affaires étrangères s'appelait George Marshall. C'est celui qui est l'idéateur du plan Marshall, d'ailleurs, qui a sauvé l'Europe de ses ruines, demandait au président Truman de ne pas accepter la création d'un État d'Israël, de faire pression sur Ben-Gourion pour qu'il ne le déclare pas. Eh bien, Ben-Gourion a passé outre. Il a déclaré l'État d'Israël. Et sans cette déclaration, il n'y aurait pas eu d'État d'Israël. C'est aussi simple que cela. En 1967, c'est passé exactement la même chose. Le département d'État Et le président Johnson, à l'époque c'était Johnson qui était président des États-Unis, ils avaient dit pas de guerre préemptive, parce que si vous y allez, vous serez seul.
De Gaulle avait dit la même chose.
Oui, mais pas, laissons les players moyens de côté. Mais
c'était quand même le grand livre d'armes à l'époque, hein, les Français.
Vous avez raison, par là, jusqu'à 1958, la 4ème République. Mais les Américains avaient dit aux Israéliens, si vous prenez la responsabilité d'une action préemptive, eh bien, vous serez seul. Ne comptez pas sur notre soutien. Et puis, il y a eu 1981, il y a eu le programme nucléaire irakien livré par la France. Menachem Begin a pris la décision qui allait à l'encontre de la volonté américaine. Et du reste, l'intervention israélienne avait été condamnée par Ronald Reagan, qui était le président républicain, grand ami d'Israël. Mais en 1981, il avait condamné, sévèrement d'ailleurs. Et je dis en passant, la gauche israélienne aussi avait condamné la décision de Menachem Begin. Et puis, il y a eu 2007, c'était Oud Olmert, qui était premier ministre d'Israël. Il y avait eu le bombardement du programme nucléaire syrien à Deir ez-Zor. C'était aussi contre la volonté de la, entre guillemets, communauté internationale. Donc, lorsque les intérêts d'Israël sont en jeu, Israël doit penser à lui-même et ne pas chercher à plaire à ceux qui, de toute façon, le détestent.
Tout à fait. Il y aura évidemment le contexte électoral américain, je pense, explique une grande partie de la réaction de Joe Biden. Hein, j'imagine que la dernière chose qu'il veut voir se produire au Moyen-Orient, c'est une déflagration qui aurait, disons, dans le meilleur des cas, des conséquences économiques évidemment plutôt désastreuses. On peut imaginer que le baril du pétrole grimperait de manière très significative, que ça aurait un impact très fort sur le niveau d'inflation dans le monde, et en particulier aux États-Unis. Et on sait à quel point Joe Biden est sensible à cet indicateur hein, qu'il surveille au quotidien, le taux d'inflation aux États-Unis.
Qui reste fort d'ailleurs.
Qui reste toujours fort, puisqu'il reste, je crois, au-delà des 3,5%.
3,9.
Alors qu'il espérait qu'il descende sous la barre des 2%. Mais clairement, dans le meilleur des cas, si je puis dire, une déflagration, une guerre entre l'Iran et Israël, le Moyen-Orient, aurait des conséquences économiques énormes et donc un impact très négatif pour sa réélection au mois de novembre. Mais dans le pire des cas, forcerait les Américains à s'engager militairement probablement dans ce conflit, en tout cas potentiellement. Et on sait à quel point aussi beaucoup d'Américains aujourd'hui sont, je parle du peuple américain, assez frileux, dès lors qu'il faille intervenir militairement sur des théâtres étrangers à celui des États-Unis. Donc j'imagine que c'est ce contexte-là, alors évidemment en plus la gauche américaine et la pression qu'exerce minorité musulmane dans quelques états pivots, mais je pense que c'est ce contexte électoral qui pèse très très fort dans les pressions qu'exerce Joe Biden et l'administration américaine sur Israël aujourd'hui.
Vous avez raison, mais pas que. Pas que. Il n'y a pas que le Michigan, il n'y a pas que le Minnesota, il n'y a pas que le Wisconsin qui sont en jeu. Ce n'est pas la solution à deux états, c'est-à-dire Michigan-Minnesota qui dicte l'attitude des États-Unis à l'égard d'Israël. C'est une partie de l'explication. C'est une partie seulement de l'explication. Il me semble que la partie principale, c'est et ça date de bien avant qu'on rentre en campagne électorale, comme c'est le cas aujourd'hui, où effectivement, ce que vous évoquiez à propos du calendrier joue en faveur de cet appel à la désescalade. Mais c'est le fil rouge de cette administration qui suit le même fil rouge de l'administration des deux administrations Obama. C'est-à-dire la volonté de ne pas en découdre avec l'Iran et de faire de l'Iran un interlocuteur tout à fait honorable. C'est-à-dire de le remettre au centre du jeu dans la politique régionale américaine au Proche et Moyen-Orient. L'administration américaine n'a jamais abandonné son rêve de ressusciter le JCPOA qui a été signé lorsque Obama était président le 14 juillet 2015. Et les efforts des Américains n'ont jamais cessé pendant les jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, d'essayer de trouver une voie de communication avec les Iraniens qui permettrait de remettre en place ce JCPOA, qui offre un boulevard pour l'Iran pour devenir une puissance nucléaire le plus légalement du monde, à l'horizon de 2030, c'est-à-dire demain matin. Donc il y a, je crois, ça surtout. Et puis, il y a effectivement ce bouleversement, je dirais, sociétal aux États-Unis qu'on observe dans les facultés, dans les académies, dans le monde du spectacle, dans le monde médiatique, où il y a une fronde qui était marginale il y a seulement quelques années et qui aujourd'hui déborde largement des franges pour devenir presque le centre du discours d'un courant important du Parti démocrate qui est représenté du reste par 56 représentants à la Chambre des représentants démocrates, ça veut dire à peu près un quart, puisqu'ils sont, je crois, 212, donc 56 sur 212, qui ont signé une lettre officielle au président américain demandant de conditionner l'aide militaire américaine à Israël à une enquête indépendante sur le crime commis par Israël lorsque, par erreur, eh bien, il a tué 7 membres d'une organisation humanitaire qui s'appelle World Central Kitchen, je pense, si ma mémoire est bonne. Donc, vous voyez, il y a aussi ce bouleversement, vous l'évoquiez tout à l'heure, le wokisme, l'intersectionnalité des luttes, la division du monde entre oppresseurs et opprimés, entre possédants et possédés, et que tout ce entre colonisateurs et colonisés, et donc tout le Parti démocrate, et ça c'est totalement indépendant d'Israël, ça n'a rien à voir avec Israël. Israël n'a rien à voir avec ce changement sociétal, d'ailleurs qui traverse pas seulement la société civile américaine, elle traverse pratiquement les sociétés civiles dans tous nos pays occidentaux. Et donc ça n'a rien à voir. Donc Israël doit prendre des mesures qui assurent son avenir indépendamment du locataire actuel de la Maison-Blanche. Alors ça va certainement déplaire au monde, c'est certain que cette unité de façade qui existe, ou de cette alliance, ou de cette solidarité de façade qui existe pour l'instant avec Israël, parce que pour l'instant Israël garde l'arme au pied, volera en éclats. Mais elle a volé en éclats dès le 8 octobre. Elle a volé en éclats dès le 9 octobre, dès que Israël a promis qu'il allait porter le fer à Gaza pour punir ceux qui avaient ceux qui étaient responsables du pogrom. Eh bien, cette solidarité, elle volera en éclats. Ça veut dire que Israël ne bénéficie de la solidarité qu'à partir du moment où il n'accepte que de se défendre, mais porter le fer à l'étranger, en dehors de ses frontières, ça c'est interdit. Donc Israël peut se défendre, mais pas attaquer.
Tout à fait. Et cette pression américaine qui s'exerce sur Israël, elle est assez vicieuse également, parce que on sait qu'il y a des bases américaines, de nombreuses bases américaines, oui, dans la région. Oui. On sait que les Américains, lorsque les Israéliens avaient mené cette action le 1er avril,
oui,
contre cette annexe du consulat à Damas, que les Américains avaient eu pour première réaction de dire aux Iraniens « c'est pas nous, c'est pas nous, nous n'avons strictement rien à voir dans cette histoire, ne nous attaquez surtout pas ». L'air de dire « vous pouvez attaquer les Israéliens ». Donc c'est assez insidieux parce que la pression exercée par les Américains laisse entendre également aux Israéliens qu'une action israélienne pourrait mettre en danger,
oui,
les troupes américaines qui sont basées dans la région. Et donc c'est une pression assez vicieuse, parce qu'effectivement, si les Israéliens devaient mener des représailles contre l'Iran, et qu'à la suite de quoi les Iraniens venaient à attaquer ces bases américaines, comme elles l'ont fait souvent dans le passé, mais elles s'en sont abstenues depuis quelques semaines, hein, depuis le 1er avril, et que des troupes américaines devaient être victimes de ces attaques, on peut imaginer les fortes critiques qui tomberaient sur Israël. Les Américains pourraient peut-être même éventuellement accuser Israël d'être responsable de morts américains.
Mais c'est ce que fait un allié. Ouais. C'est ce que fait un allié. C'est ce que fait un allié qui déclare que la solidarité avec Israël est inébranlable, que la sécurité et la pérennité d'Israël sont inébranlables. Ok. Ne sont pas discutables. C'est ce que fait un allié lorsque cet allié est menacé dans son existence même. Bah, l'allié convoie à l'ennemi de son allié le message « si vous touchez à mon allié, eh bien, moi, je me joins à lui pour vous punir ». et je mets mes troupes en alerte là où elles sont déployées, là où elles existent, à l'abri de vos éventuelles représailles. Et si représailles il y a, nous vous écraserons comme un moucheron. Parce que l'Amérique peut tenir ce discours parce qu'elle détient un gourdin infiniment plus gros que le gourdin iranien. Comme le disait Donald Trump, mon bouton, il est plus gros que le... Vous vous rappelez cette histoire avec Kim Jong-un de Corée du Nord. Donc, mon bouton est beaucoup plus gros. Je peux vous écraser comme un moucheron. Et c'est le cas. Effectivement, les Américains sont la seule puissance au monde qui peuvent ramener les Iraniens à un peu plus de responsabilité et un comportement acceptable. Mais ils font exactement le contraire de ce que devrait faire un allié. Ils vont chez les Iraniens, frapper humblement à la porte des Iraniens, leur dire, vous savez, c'est pas nous le 1er avril, Zaïdi, c'est pas nous qui l'avons tué. Donc dirigez votre hargne et votre colère sur les Israéliens dont nous sommes les alliés. Tout ça est assez minable. C'est pas comme ça que se comporte un allié. Un allié, s'il veut dissuader un ennemi à lui et à son allié privilégié qu'est Israël, eh bien, il convoit un tout autre message. Alors, qu'il y ait mort américaine, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais le président n'aurait aucun mal à s'en expliquer devant la population américaine. Il veut dire, c'est notre rôle. C'est notre rôle de faire comprendre à l'Iran que certains comportements sont inacceptables. Et c'est le rôle de l'armée de faire passer ce message. Et c'est tout le contraire que fait l'Amérique. L'Amérique, depuis deux mois, trois mois, à mesure que l'on se rapproche de l'échéance électorale, eh bien, chaque jour, il y a un tour de vis supplémentaire contre Israël. Il y a presque une véritable guerre politique, diplomatique contre l'État d'Israël. Je veux dire, des propos ahurissants ont été tenus par tous ceux qui ont accès au micro officiel américain, qu'il s'agisse de Jack Sullivan, qu'il s'agisse du président Anthony Blinken. Tout le monde y va. Il y a une déclaration à Bruxelles d'Anthony Blinken qui disait que si les Israéliens continuent comme ils le font à Gaza, eh bien on ne pourra bientôt plus les distinguer du Hamas. Vous vous rendez compte ? L'allié privilégié d'Israël qui dit aux Israéliens, bientôt vous serez comme le Hamas, on ne pourra plus vous distinguer. Et ça, c'est le secrétaire d'État aux affaires étrangères américain d'un allié qui dit que la sécurité d'Israël est une prérogative majeure dans la politique étrangère américaine. On se paie du monde, là. On se fiche du monde.
Et alors, ce qui est bizarre dans toute cette histoire, c'est que plus ils s'écrasent face aux Iraniens, plus on a l'impression que ça a l'effet exactement inverse. Que ce soit côté iranien, et même côté public américain.
Oui.
On a quand même l'impression qu'ils font un très très mauvais calcul, si on regarde d'un point de vue purement électoraliste.
Oui.
Bon, il y a effectivement quelques centaines de milliers de surexcités.
Mais ils s'en gagneront d'autres. Mais ils s'en gagneront d'autres de suffrages. Tous ceux Exactement. Qui n'aiment pas Trump et tous ceux qui attendent que l'Amérique se comporte comme Amérique, ils vont se dire, bah, tiens, on a un président
qui tient la route, tout à fait. Il fait un drôle de calcul parce qu'il voit des gens dans la rue manifester violemment. Il perd, je pense, le fait qu'il y a peut-être 10 fois plus de personnes qui, eux, sont beaucoup moins violentes, ni verbalement, qui ne manifestent pas, mais qui n'en pensent pas moins. Donc moi, je pense qu'il fait un double mauvais calcul. Oui. Hein, il va perdre probablement ses élections. On voit d'ailleurs les sondages dans un État comme le Michigan. Il a 10 points de retard dans le Michigan, malgré les discours qu'il a tenus pour essayer de faire croire qu'il exerçait une immense pression sur Israël. Donc il est probable, en tout cas dans l'état actuel de la situation, qu'il perde ses élections aux États-Unis et il est probable qu'il plonge au Moyen-Orient peut-être dans plus de violence que s'il tenait un discours extrêmement dur, extrêmement ferme, qui ferait comprendre aux Iraniens qu'ils ont plutôt intérêt à la jouer profil très très bas.
Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais je veux dire, le monde dit libre, dit éclairé, aux valeurs dites universelles, je veux dire, est plongé dans une cécité coupable. Je veux dire, on est en train d'interdire à Israël de répliquer à un État qui, à l'horizon de quelques mois, deviendra, il est déjà un État du seuil, puisqu'il maîtrise tout le processus d'enrichissement de l'uranium, ce n'est plus que la technologie, de la technique pour pouvoir mettre au point l'arme nucléaire et puis la charger sur un missile balistique, dont ils ont montré qu'ils peuvent les envoyer à 1600 km de distance. Donc, à très brève échéance, l'Iran devient un pays nucléaire, absolument ingérable. On a déjà vu toute la déstabilisation provoquée par un pays comme l'Iran sans être une puissance nucléaire. avec un régime qui est fragile, mais à partir du moment où l'Iran devient une puissance nucléaire, il sanctuarise son pouvoir, il devient pratiquement impossible de le renverser, même par la population, si elle se déverse dans les rues pour demander son renversement, ça devient ingérable. Ça veut dire qu'on
promet... C'est la Corée du Nord exponentielle.
Bien sûr, mais dans une région encore plus explosive. Ouais. Encore plus explosive, parce que la promesse de la Corée du Nord, c'est pas d'éradiquer l'Amérique, hein, c'est pas de l'effacer de la carte. La promesse de l'Iran, c'est d'effacer un État membre de la communauté internationale de la carte. Donc tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et les Iraniens, pour ceux qui ont une mémoire défaillante, le rappellent tous les jours. Notre raison d'être au monde, c'est l'élimination du cancer sioniste, de l'entité sioniste. Et nous nous en donnerons les moyens. Et on voit le monde entier trembler devant une puissance moyenne comme l'Iran, une superpuissance régionale certes, mais une puissance moyenne au niveau mondial, menacer l'équilibre du monde parce que on est terrorisé par l'idée qu'une représaille israélienne viendrait altérer l'équilibre d'une région qui n'a strictement rien d'un équilibre.
Il faut rappeler aussi à nos auditeurs que cette alliance, disons de façade pour l'instant, hein, qui a permis effectivement une bonne défense du territoire israélien ce week-end. Elle est aussi le fait de l'administration américaine précédente.
Oui.
Il faut rappeler que les accords d'Abraham, c'est Donald Trump. Et il faut rappeler également que c'est quelques semaines avant son départ de la Maison-Blanche qu'il a décidé de transférer Israël dans ce qu'on appelle le CENTCOM.
Oui.
Les Américains ont, je pense, 11 centres de commandement militaire dans le monde. Hein, où ils ont des bases un petit peu partout, ils ont des centres de commandement. Israël appartenait à EUCOM, hein, qui était le centre de commandement européen, bon, pour des raisons politiques, parce que les pays de la région du Moyen-Orient ne voulaient pas d'Israël dans le CENTCOM. Et le CENTCOM, c'est le Central Command, c'est le centre de commandement du Moyen-Orient. Et Donald Trump a pris la décision de transférer, à la suite des accords d'Abraham, Israël en 2021... Ça s'est produit en 2021. La décision a été prise dans les derniers jours de l'administration Trump. Et donc c'est précisément parce qu'Israël fait partie de CENTCOM que cette coordination militaire efficace qui a vu le jour ce week-end a pu effectivement mettre à mal les desseins iraniens.
Oui, c'est exact. Mais c'est à se demander aujourd'hui si on n'est pas un lauré d'un bargain, d'un quid pro quo. C'est-à-dire que, vous savez, il y a plusieurs pistes pour les Israéliens pour riposter aux Iraniens. Alors, ils peuvent se dire, riposter aux Iraniens, pour l'instant, ça va soulever un tollé énorme, on va se faire condamner, on va être encore plus isolé qu'on ne l'a été les dernières semaines après Gaza. Les Israéliens peuvent demander aux Américains, ok, on sursoit à notre intervention en Iran, mais vous nous laissez le feu vert contre Rafah. Je veux dire, ce que fait l'administration américaine, c'est laisser... la tête du serpent ou la tête de la pieuvre intacte et une de ses tentacules en mesure de se réorganiser, de se renforcer. Si Israël est interdit d'envahir Rafah et de détruire les 4 bataillons restants. Donc, ce que l'administration américaine fait, sous couvert de soutenir Israël, de l'assurer de son soutien inébranlable, ce qui ne les a pas empêchés de s'abstenir dans une résolution qui exige un cessez-le-feu immédiat, eh bien, on va laisser une tentacule de nature à se... Et on connaît la capacité d'une tentacule de se renforcer, de se réinventer, et on va laisser la tête intacte. Et on sait parfaitement que ce serpent a pour ambition de détruire Israël. Et ce serait Israël qui serait l'État le plus dangereux au monde et celui qui est le plus menacé d'isolement diplomatique. C'est pas l'Iran, hein. C'est pas l'Iran.
Tout à fait. Alors bon, parlons un tout petit peu de ces élections américaines, alors oui. Il nous reste quelques minutes. Novembre n'est plus très loin, et aujourd'hui est une date assez historique également, puisque c'est la première fois qu'un ancien président américain il sera dans le cadre d'un procès qui lui est intenté. Il va, je pense, aujourd'hui.
Oui, c'est aujourd'hui à partir d'une heure et demie.
À partir d'une heure et demie, à New York. Et donc, évidemment, ça fait partie de cette stratégie démocrate. Hein, la stratégie démocrate, c'est quoi ? C'est l'avortement. Et d'ailleurs, peut-être que ça jouera un rôle clé, hein, puisqu'on sait que la Cour suprême de l'Arizona, il y a 2 semaines, a décidé d'interdire quasiment toute forme d'avortement par 4 juges à 2. Mais en tout cas, l'avortement est un des moyens invoqués. Le deuxième, c'est le risque de la fin de démocratie. Hein, donc Donald Trump, c'est Hitler, c'est Mussolini, c'est Staline, tous ensemble.
Et Mao Tse-tung, vous l'avez oublié. Et Mao Tse-tung, vous l'avez oublié.
Mao Tse-tung aussi, c'est la poudre Ariel. Hein, en un, c'est les trois magnifiques dictateurs du passé qui sont réunis dans un seul personnage. Donc c'est cette tentative-là également, ce type de discours-là. Et puis, c'est ce qu'on appelle le lawfare, hein, c'est cette guerre juridique qui est menée contre Donald Trump. Alors, bizarrement, c'est le procès le plus absurde des 4
oui.
qui démarre aujourd'hui. Les 3 autres sont en rade et je pense pas que on verra les autres procès voir le jour avant les élections du début novembre. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, ce procès-là est le plus absurde puisqu'il s'agit donc de ce qu'on appelle le hush money. Hein, il a payé une prostituée de l'argent pour la faire taire pour qu'elle ne
qu'elle ne dévoile pas
une affaire qu'ils auraient eu ensemble, je pense, en 2005, en 2006, je pense, à la veille des élections de 2016. Alors, évidemment, le procureur a essayé d'abord de faire passer ça pour un financement illégal de campagne, puisqu'il aurait fait ça pour favoriser sa campagne électorale. C'était juste pas recevable. Puisque pour que ce soit recevable, il faut qu'une dépense de campagne ne soit qu'exclusivement dédiée à un besoin de campagne. Ouais. Alors là, évidemment que c'était pour essayer de protéger sa vie familiale. Et donc ça ne tenait pas la route. Donc il a dû faire une espèce de pirouette juridique absolument extraordinaire, en expliquant que c'est en fait une erreur, enfin pas une erreur, c'est un... C'est une fraude fiscale, une fraude comptable.
Auquel
plutôt,
tout le monde aurait eu recours.
Hein, donc il aurait dans ses livres, il a effectivement dans ses livres comptables...
Oui. Inscrit cette dépense sous
comme
une
dépense légale.
Sous un autre intitulé.
Son avocat, voilà. L'intermédiaire de son avocat qui a payé cette prostituée, il a appelé ça dépense légale, au lieu d'appeler ça dépense pour faire taire une prostituée.
Une prostituée qui me menace dans mon élection de 2016.
Donc on est dans l'absurde le plus total, Isaac.
Mais oui, mais lorsqu'on est dans une guerre juridique contre Donald Trump, tout est bon pour avoir... l'ouverture des journaux. D'ailleurs, les journaux télévisés, je l'ai vu sur les chaînes européennes, elles ont ouvert leur journal, non pas sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi et dimanche en Israël, on l'a ouvert sur ce procès qui risque de mettre à bas la candidature de Donald Trump. Bon, je pense pas que vous avez souligné le caractère absurde de l'accusation qui est portée contre Donald Trump. Je pense pas que ça aboutira à quelque chose de sérieux, sinon peut-être à renforcer encore sa notoriété et sa popularité auprès de son électorat qui estime qu'il est véritablement la cible d'un complot juridique pour l'empêcher d'accéder à nouveau à la magistrature suprême.
Mais vis-à-vis des indépendants, vous pensez pas qu'il sera condamné? Moi, je pense à New York, il sera forcément condamné. Hein.
Oui, mais je pense que la nature de l'accusation, même si condamnation il y a, n'est pas de nature. Vous savez que même les indépendants ne se font depuis longtemps aucune illusion sur la nature, sur la vulgarité du comportement de Donald Trump. Ils ne vont pas en apprendre quelque chose sur son comportement personnel avec une condamnation. Donc leur jugement sur l'homme Donald Trump, il est fait depuis longtemps. Donc je pense qu'ils réfléchiront au bilan de l'actuel président des États-Unis, Joe Biden. Ils le compareront mentalement à ce qu'ont été les 4 années de mandat de Donald Trump. Et puis ils feront leur arbitrage. Je ne pense pas que ça va changer, que ça va faire bouger les lignes. Vous évoquiez quelque chose qui était une arme majeure des démocrates dans cette... course à la présidentielle, c'est l'avortement, effectivement. Et là, Donald Trump a remarquablement joué, parce que à ceux qui le pressaient au sein même de son parti de fédéraliser l'autorisation à l'avortement, ou plutôt de l'interdire à partir de la 6e semaine, pour certains, pour d'autres, à la 12e semaine, pour des 3e, à partir de la 15e semaine, il a dit non. La Cour suprême a décidé que c'est de la responsabilité des États, et donc je le laisse en l'état. Donc il n'a pas voulu porter un jugement de valeur. Il dit c'est aux États à se déterminer et c'est aux citoyens à voter dans chacun des États s'ils veulent que cette législation change dans leur État respectif. Je pense que là, il a remarquablement déminé un argument de campagne qui est un argument majeur, qui aura permis d'ailleurs aux démocrates de limiter les dégâts lorsqu'il y a les midterms en 2022. Et donc je pense que là, il aura évité un écueil de façon assez habile.
Ceci étant dit, parce que je suis quand même assez surpris, moi, que cette Cour suprême d'Arizona, oui, à quelques mois des élections, on pensait qu'il aurait quand même une intelligence politique autre que celle-là, à 6-7 mois des élections, de passer, en fait, de prendre une décision, en fait, qui est invalide, si j'ai bien compris, la quasi-totalité des possibilités d'avortement en Arizona. Je pense que ce n'est que dans le cas du danger pour la vie de la mère,
ou de l'enfant,
possible, ou de l'enfant. Mais dans tous les autres cas, c'est rendu impossible.
Je ne sais pas si dans le cas d'un viol.
Les exceptions sont extrêmement
rares. Quoi qu'il en soit, la décision, elle est radicale.
Elle est radicale.
Et elle ne joue pas en faveur
de Donald Trump. Et effectivement, bon, je crois qu'il a bien joué de ce point de vue-là. Mais malgré sa décision qui consiste à dire, voilà, ça restera aux États de le faire, ça veut en substance dire également, mais si un État comme l'Arizona prend une telle décision, moi, au niveau fédéral, je n'interviendrai pas. Donc je pense que ça va quand même jouer un rôle dans cette campagne, et ce sera quand même une munition dont se serviront les démocrates.
Hein. Au niveau fédéral, ce n'est pas à lui à intervenir. Hein.
Non, c'est l'argument qu'utiliseront les démocrates.
Vous avez raison, mais ce sera au Congrès. Oui. Si on ne se satisfait pas des décisions qui sont prises ici et là, en Arizona ou ailleurs, en Louisiane ou en Géorgie, et que les recours à la possibilité d'avortement sont à ce point restreints, c'est une affaire fédérale, mais c'est la responsabilité du Congrès. Et pour que ça devienne une décision fédérale, il faut le codifier au Congrès. Et s'il y a une majorité qui se dégage pour décider le droit à l'avortement au niveau fédéral et que cela s'impose à tous les États, quelle que soit leur propre inclination à l'égard de cette question, eh bien, c'est au Congrès à prendre la décision et à en décider.
Et il est peu probable d'ailleurs qu'elle le prenne, cette décision,
oui,
parce qu'il faut cette fameuse règle des 60 sénateurs sur 100.
C'est ça.
Et il paraît très très improbable qu'on se retrouve avec une situation où on est 60 sénateurs démocrate.
Hein. C'est raison.
Parce que les élections qui viennent, il est plus que probable que les Républicains remporteront le Sénat, en tout cas.
Oui, le Sénat leur semble promis parce que sur les 34 sénateurs... Il y en a 23, je crois, qui sont des démocrates qui remettent leur mandat en jeu. Et donc, à l'inverse de ce qui s'est passé en 2022, dans les élections du midterm, où c'était les Républicains qui étaient beaucoup plus exposés, ce sera cette fois les démocrates qui mettent en jeu les deux tiers des mandats de renouvellement des sénateurs.
Alors Isaac, peut-être un tout dernier point avant que nous ne clôturions. L'Indonésie, peut-être une bonne nouvelle avec l'Indonésie ?
Peut-être une bonne nouvelle, effectivement, parce qu'on entend des rumeurs insistantes, semble-t-il, que l'Indonésie serait prête à normaliser ses relations avec l'État d'Israël. Soulignons ou rappelons que l'Indonésie, c'est le premier pays musulman au monde.
Oui. Mais pour quelle raison ? Parce qu'ils veulent rentrer dans l'OCDE.
Peu importe la raison.
Peu importe. Et que pour rentrer dans l'OCDE, dont Israël fait partie,
il faut l'unanimité.
L'unanimité de tous les membres.
C'est bien qu'Israël dispose d'un atout pour amener certains qui seraient réticents à la normalisation de leurs relations avec Israël, de jouer de ses cartes.
Parfait. Mais écoutez, Isaac, ce sera le mot de la fin pour cette semaine et pas d'émission, je pense.
Pas d'émission la semaine prochaine, effectivement, puisque c'est le Seder de Pessah.
Voilà. Parfait. Bonsoir à tout le monde.
Au revoir.